Bonjour chers auditeurs et auditrices, l'équipe d'animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy est heureuse de vous retrouver dans le cadre de son émission mensuelle, les Échos du Grand Saint-Barthélemy. Vous êtes sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM ainsi que sur canal 8C du réseau numérique terrestre en DAB+. Vous pouvez également retrouver l'actualité du comité Maméga au www.vivreensemble.org. Cette émission sera rediffusée sur le créneau habituel, c'est-à-dire le jeudi 29 décembre 2022 à 13h30. Donc aujourd'hui, sont présents avec nous Kamel Guémari et Mohamed Fahem. Sans oublier Monsieur Saïd Boukounouch, qui va se charger de co-animer cette émission avec moi, et Madame Karima Berich, qui est notre passeuse de mémoire. En cours d'émission, devrait, si je ne me trompe, Kamel, tu peux me corriger si je me trompe ou pas, nous rejoindre Fatih Bouaroua. Voilà. T'as pas pris ton micro. Bon, c'est pas grave. On va se laisser une petite respiration musicale avec un morceau de Joey Starr, La Reine.
Quand je rentre dans l'arène, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fini me mène, je suis impérieux et je suis prêt. La démesure bien huilée, la masque inhabée. Je suis porté, transporté, tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler, tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Quand je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN.
Par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés.
Je suis marqué au fer, c'est comme si je t'échappais terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble mes foules. C'est comme si le monde était en feu, comme mon œuf 3 les boules. J'assure les arrières, pas de décrépitude. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC. Maintenant, j'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. Je ne titan bipolaire, pareil pour la guerre est pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. Ah bah ouais, je suis dans l'arène, comme un dieu qui s'amène. Le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine, mon son règne. Domine, je suis un seigneur, je marche plus, je l'évite.
Oh, par les fleurs, les cris, les guerres, les clèves en main dans l'arène. Nous sommes des seigneurs.
Les Échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maméga sur les ondes de Radio Galère avec vous jusqu'à 14h55. Donc comme je le disais avant cette pause musicale, nous sommes avec Kamel Guémari et Mohamed Fahem qui, pour ceux qui l'ignorent, font partie de l'après-m. Ce fameux après-m dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est normal, ils font des actions qui sont remarquables. Je m'excuse d'avance parce que j'ai oublié de dire qu'à la technique, nous avions Sidi Diallo de Radio Galère et la personne qui participe aussi à la réalisation de cette émission, qui fait partie du comité Maméga, c'est M. Farid Adrar. Donc nous allons revenir sur le sujet en laissant d'abord la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter.
Ben, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Kamel Guémari. Donc, mis à part avant de vous dire fier d'être un enfant de ces quartiers-là et d'avoir parcouru avec de nombreuses personnes à travers une lutte qui est une lutte de territoire.
Mohamed Fahem, bénévole à l'APRIEM, merci de nous inviter dans vos zones de Radio Galère. Un plaisir, un honneur d'être parmi vous et de vous raconter le parcours et l'avenir de l'APRIEM, car il y a de belles choses à vous dire.
Merci à vous d'être venu et de nous consacrer un petit peu de temps pour informer un petit peu tous nos habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais pas que, parce que j'espère bien que nous nous sommes écoutés en dehors de nos murs et de nos territoires. Sinon, ça serait dommage, hein. Mais bon, je pense que c'est le cas. Alors du coup, là, vous avez déjà commencé à enchaîner un petit peu sur vos parcours collectifs, mais vos luttes individuelles, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Parce que Kamel, avant l'après-midi, quand même, tu as pas mal lutté.
Alors l'aventure, elle commence où et quand ?
Eh bien, elle commence, je pense, quand on est enfant de ces cités-là, on est lutteur ou lutteuse. La misère n'a pas de frontières, ni d'odeur, ni de couleur. Et nous, on a essayé de prendre cette petite patience et d'essayer de l'exprimer le plus sagement possible, parce que on peut faire ce qu'on veut, mais le temps ne nous appartient pas. L'être humain peut s'acheter une montre, mais pas le temps. Et face à un système qui nous stigmatise, nous pointe du doigt et nous cloisonne entre soi, on peut prendre conscience qu'on soit de la Bussurine, de la Savine, d'Herbel, de la Cayolle ou d'autres quartiers. Nous avons toutes et tous la même douleur, la même souffrance, et nous ressentons tous la même douleur. Aujourd'hui, on parle souvent de ces cités, mais on ne parle pas de ces gens, de ces héros, de ces femmes et ces hommes qu'on ne voit pas, qui se lèvent le matin à 4 heures du matin pour essayer de nettoyer nos bureaux, ramasser nos poubelles, construire nos routes, nos bâtiments. Et aujourd'hui, on peut dire que ce pays tient debout, c'est grâce à...
Mohamed, si tu as quelque chose à rajouter, tu peux. Si tu n'as pas quelque chose, il n'y a pas de stress, tu n'es pas obligé.
Non, stressé, non, je ne pense pas qu'on l'ait. Ceux qui sont stressés, c'est plutôt les personnes qui n'ont rien sur la table et qui pensent à se dire comment je vais faire nourrir ma famille. Et nous, on essaye de pallier à cela avec un certain nombre de personnes, de bénévoles, car depuis la lutte et la fermeture de cet ancien McDo, il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place à l'intérieur, notamment des distributions de colis alimentaires, et où il y a eu pas mal de bénévoles qui sont venus soutenir cette cause-là, et d'affronter, et de se dire que je veux tendre la main à mon prochain. Et c'est ça qui est fabuleux, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a eu cet élan de solidarité avec les 50 associations qui sont venues. Et ensuite, ce qui est magnifique, c'est qu'au final, c'est que les gens se sont dit eh bien, il faudrait s'unir et tendre la main. Et on n'a pas arrêté de pouvoir le faire. Et on le fait toujours et on le fera et on continuera à pouvoir œuvrer pour nos voisins, pour nos familles, pour nos quartiers, pour celui qui n'a rien à manger. Donc voilà ce que je voulais dire.
Merci Mohamed. Alors je vais maintenant laisser la parole à notre passeuse de mémoire, Karima. Parce que comme vous le disiez précédemment, avant l'après-midi, il y a eu le McDo, certes. Mais avant le McDo... Qu'est-ce qui se passait sur notre territoire malgré tout ?
Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible, mais parler aussi un petit peu du McDo, parce que j'avais préparé un petit écrit à cet effet. Alors, avant l'édification du McDo en 1992, et bien avant, on est quand même sur un territoire qui a été construit dès les années 60 jusqu'au milieu des années 70. Donc, à l'époque, ce qu'on appelait un vaste dortoir, qui a permis à des milliers de ménages, de familles, de pouvoir y résider, parce qu'on était à l'époque à la fois face à une crise de logement, mais en même temps le plein emploi, donc un peu un paradoxe. Et cette cité a vu le jour donc, durant cette période-là, et c'est essentiellement, en tout cas selon les documents de la GAM, dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70, plus de 75% de la population résidant dans ces grands ensembles, étaient des salariés, essentiellement des ouvriers et la petite classe moyenne. Donc on sait qu'on a une population qui est une population salariée, travailleuse, etc. Et pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et l'après-midi expliquera un peu les choix qu'ils ont faits, un choix social et de solidarité par rapport aux populations les plus précaires. Donc on est sur un territoire où on a des salariés, je me répète un peu, des salariés, des gens qui travaillent, etc., et qui résident dans ces grands ensembles qui ont été construits pour cela, pour ces populations. Donc l'emploi existe, et puis il va avoir le fameux choc pétrolier des années 73 avec le quadruplement du prix du pétrole, et on va commencer à entendre parler au niveau national, mais évidemment aussi au niveau local, des premiers licenciements économiques, etc. Les premières populations qui vont être touchées par les licenciements économiques, ce sont les immigrés, les travailleurs immigrés. Et à la fois, ces travailleurs immigrés sont touchés par le licenciement économique. Et à la fois, ils vont arriver enfin dans ces grands ensembles qui leur étaient pour la plupart fermés. Donc on a ce paradoxe où la cité a connu dans un premier temps des ménages de salariés et de travailleurs et travailleuses, pour reprendre une expression chère à un parti d'extrême gauche. Et puis, dans les années 80, on observe un changement de population avec le départ des familles, des ménages européens vers la propriété ou la copropriété. Et les bailleurs sociaux ouvrent enfin largement leur résidence à ces familles immigrés, maghrébines essentiellement, puis d'autres communautés viendront s'installer. Mais ces familles font face à ce qu'on appelle un chômage qui va au début, qu'on a pensé conjoncturel, qui malheureusement va devenir structurel et qui va être un peu l'héritage de plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui, soit le non-emploi, soit l'emploi précaire, soit un emploi mal payé. Voilà, donc ça c'est un peu la situation économique qui a évolué des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Après, je voudrais dire deux mots sur le McDo. Donc moi, j'avais appelé ça du McDo de Sainte-Marthe à la Préhème. C'est un enjeu de territoire, et Kamel d'ailleurs l'a dit très clairement, sur un enjeu de territoire. Donc le McDo de Sainte-Marthe a été édifié en 1992 sur une petite butte, une toute petite butte, au croisement de plusieurs noyaux villageois. On est quand même au croisement de Sainte-Marthe, Saint-Barthélemy et le Merlang, de grands ensembles sociaux et d'axes routiers, dont l'avenue de Sainte-Marthe, qui donnera son nom à ce fast-food. Mais la singularité de cette implantation géographique a permis de créer des liens forts avec les premiers voisins, à savoir les habitants de l'ex-Jup-Centre, dénommé depuis le Grand Saint-Barthélemy. L'autre singularité du McDo de Sainte-Marthe a été d'embaucher des personnes issues des grands ensembles sociaux à proximité ou plus largement sur l'ensemble des quartiers nord de Marseille. Face au chômage endémique, on n'hésite pas à demander aux responsables d'y embaucher un membre de sa famille ou soi-même. Et le McDo a permis aussi à de nombreux étudiants de pouvoir faire face aux frais de leurs études avec un emploi occasionnel au niveau du McDo de Sainte-Marthe. Mais on ne peut pas comprendre l'attachement de la population au McDo de Sainte-Marthe si on n'intègre pas ce facteur économique. Il est l'une des principales enseignes à recruter une population précarisée par le travail et par la désindustrialisation de l'économie marseillaise opérée depuis les années 70. Les dernières générations des quartiers populaires ont eu un héritage pour la plupart le non-emploi ou la précarité salariale comme seul horizon, j'en ai parlé. Il est évident que la disparition du McDo de Sainte-Marthe est vécue par les habitants et consommateurs comme un service en moins, renvoyant tout un territoire à une désertification économique. Les ex-salariés du McDo ont un projet qui aujourd'hui aboutit, qui s'appelle l'après-midi. Mais je vais laisser quand même à Kamel et à son ami Mohamed en parler un peu plus longuement. Mais toujours est-il que pendant cette période où il a été question de la fermeture, puis de la fermeture du McDo, et de la réflexion de ce qu'allait être ce lieu qui était porté par les salariés, particulièrement par celui qui incarne la lutte des salariés de l'ex-McDo, en l'occurrence Kamel Guémari. La question de la symbolique est à prendre en compte dans toute démarche de redéfinition de cet équipement. La dimension économique est centrale, mais ne peut être amputée de sa dimension fortement sociale et émotionnelle, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'affect de la part des habitants autour de cet équipement. Voilà, donc ça c'est vraiment important. L'après-midi se situe bien à ce niveau, tant dans sa dimension économique et sociale, et le combat de Kamel Guémari incarne cette fidélité à ce double engagement dans la droite ligne des valeurs qu'il a portées au sein de l'ex-McDo pour les transposer dans l'après-m. Excusez-moi, j'étais un peu longue, mais c'était important de rappeler à la fois l'histoire du McDo, pourquoi le McDo s'est inscrit longuement dans le territoire du Grand Saint-Barthélemy, parce qu'il venait apporter un souffle en termes d'emploi pour quand même une population qui était extrêmement touchée par le chômage, et un chômage qui malheureusement s'est transmis de génération en génération. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et la deuxième, c'est effectivement cette dimension sociale que Kamel Guémari et déjà les salariés de l'époque ont inscrit dès les premiers temps, pardon, en disant ce n'est pas seulement un lieu où on vient s'acheter un hamburger, etc., mais c'est aussi un lieu où à la fois on forme et on salarie des gens dans la durée.
Kamel, tu veux déjà rajouter deux mots à ce que vient de dire Karima ?
Je dirais que c'est exactement ce que c'est excellent ce qu'elle dit, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit. Et quand on parle d'une lutte d'un territoire, oui, certes, on est dans un rond-point, c'est la place du village, mais nous, ce qu'on souhaitait, c'est de pouvoir continuer à faire rêver d'autres, que aujourd'hui ces personnes-là ne rêvent plus, de permettre à des personnes de prendre leur destin en main, de pouvoir se dire ce qui est décidé pour moi ou ce qui est fait pour moi, sans moi et réellement contre moi. Et on dirait, et je dirais qu'il n'y a pas mieux que celle ou que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Et nous, cette petite douleur à travers notre lutte, on ne s'est pas isolé entre soi. Ça n'a pas été une lutte que de travailleuses et de travailleurs. Oui, on a préservé l'outil de travail. Parce que dans ces quartiers-là, nous sommes des travailleurs et des travailleuses. Dans ces quartiers, on est même dans la débrouille, on y arrive à sortir des choses extraordinaires. On pourrait parler d'un Zidane, qui est un génie, qui nous a fait rêver, qui a ouvert quelques portes qui nous ressemblent, de l'Algerino, Soprano et d'autres personnes qui sont sorties de ces quartiers. Quand on leur donne un savoir, on en sort des pianistes. Quand on leur donne l'accès au savoir, et chez nous, il n'y a pas de sachant et de non-sachant. Chaque personne a un savoir-faire. Mais comment on peut essayer de lui donner ou lui permettre de réaliser ses rêves? Nous, au sein de ce restaurant, ça a toujours été un lieu d'hétérotopie, là où les rêves se réalisent. On est parti dans une lutte avec un faciès, avec une stigmatisation de racailles, de voyous. Donc l'émetteur et le récepteur, il était décalé. On a dû trimer. On a dû être sage entre nous, parce que on souhaitait pas lutter pour nous, parce que quand on lutte pour nous, souvent dans chaque lutte on est limité qu'à nous. On a souhaité lutter pour notre prochain, lutter pour une génération que elle n'a pas le droit d'échouer, ou quels sont les outils qu'on pourrait mettre à disposition à cette génération pour qu'ils puissent s'en saisir. Et quand on lutte pour notre prochain, ben on essaie de ne pas s'imposer de limites et on y arrive à dépasser des limites.
Si on revient sur l'histoire, tout à l'heure Karima disait que le McDo c'était positif en termes d'emploi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, McDo a dit, la franchise McDo a décidé de dire, bon, on ferme?
Tout d'abord, on lutte depuis 2003. On lutte, et ce restaurant était un restaurant extraordinaire parce qu'en 92, on nous a vendu un rêve. Ce rêve-là, c'était pour dynamiser l'emploi. Et nous, enfants de ce restaurant, on est la plupart de ces enfants-là, on est issu de familles monoparentales. Ce n'est pas un restaurant comme les autres, parce que quand on rentre, on rêverait d'avoir l'accès à l'emploi. Et une fois qu'on arrive à mettre un orteil, ben on essaye de s'agripper, de serrer les dents et de pouvoir justement d'évoluer, de reprendre confiance en soi et d'essayer de partager l'expérience que ce restaurant ou cette famille nous a transmis. Pour nous, ce n'était pas qu'un simple restaurant comme les autres, parce que la plupart des autres restaurants, c'est des restaurants. La majorité des salariés, ce sont des étudiantes et des étudiants. Alors le turnover, il est très élevé. Ils n'ont pas le temps de s'organiser pour améliorer leurs conditions de travail. Nous, on avait le temps et la patience. Et on s'est dit, doucement, ben, ce qu'on voudrait pour nous et ce qu'on a obtenu pour nous, il est hors de question que celui qui est embauché de la même manière que nous, celui qui a la même formation que nous, et celui qui évolue de la même manière que nous, et quand on vend le même hamburger qui a le même goût, il est hors de question de pratiquer au sein de cette enseigne le dumping social ou de créer une discrimination sociale entre travailleuses et travailleurs. Et de là, on a obtenu pas mal de droits. Je dirais des droits parce que on a durement lutté pour pouvoir les obtenir. Une fois qu'on a pu les obtenir, on les a partagés. Et quand on a commencé à les partager, on est devenu un modèle social très dangereux pour cette enseigne-là. Et pour nous, ça a été une très belle aventure, une très belle lutte, parce que on ne s'est pas arrêté. À notre restaurant, on a essayé de traverser la France et même l'Europe pour pouvoir essayer de se bagarrer sur pas mal de constats de discrimination au sein de cette multinationale sur l'harcèlement sexuel, sur l'abus de pouvoir, sur le dumping social. Et quand on a essayé de pointer du doigt cette enseigne sur notre richesse, c'est là où les choses elles ont commencé un peu à devenir délicates pour eux et pour nous. Parce que nous, on voulait rien et on n'avait rien, mais on savait qu'on n'avait rien à perdre.
Exactement, c'est là, quand on n'a rien à perdre, qu'on on mène les plus beaux combats, généralement. Carrément, tu voulais rajouter quelque chose ?
Il a un peu dit, mais c'est vraiment la singularité de ce McDo, c'est que c'est l'inverse du modèle économique de McDonald's. Et l'autre singularité du McDo de Sainte-Marthe, c'est qu'il s'est inscrit dans l'histoire économique et dans l'histoire sociale de ce territoire. C'est-à-dire, le choix qui a été fait par Kamel et ses collègues à l'époque, c'est de dire effectivement, ce sont des salariés Kleenex qu'on utilise et qu'on rejette. Nous, on est dans un territoire où l'emploi se fait de plus en plus rare. On a des gens, des familles monoparentales. Il y a eu le choix qui a été fait de favoriser l'emploi des femmes et l'emploi des jeunes et de dire que ce sont des emplois pas précaires, pas à courte durée, mais des emplois à durée indéterminée. Et ça, ce n'est pas le modèle économique de McDo. Et ça, vraiment, c'est vraiment l'orientation qui a été choisie par Kamel et ses salariés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu cette intelligence première de se dire, nous sommes dans des territoires où cette réalité-là, elle existe. Nous, on est venus, il y a eu une volonté à l'époque politique pour que McDo s'inscrive dans ce territoire, ça sera donc le McDo du territoire au regard des problématiques de ce territoire.
Merci Karima pour cet éclaircissement. Mais du coup, effectivement, le modèle mis en place au sein de ce McDo était particulier. Il détonnait par rapport au fonctionnement des autres, même pas McDo, mais type de commerce, fast-food. Et du coup, quelles ont été les raisons évoqué par le détenteur de la franchise, parce que c'était une franchise, pour pouvoir dire ben, on ferme le McDo. Est-ce que c'est les travaux de la L2 qui ont précipité les choses ou est-ce que c'était quelque chose qui était enclenché bien avant ?
L'inspection du travail l'a très bien démontré, il a très bien refusé le licenciement économique parce que ça a été une mascarade. Après, je n'ai pas envie non plus de cracher sur la main qui a été tendue parce que c'est un outil qui est bien réfléchi et qui est extraordinaire. Mais tellement il est extraordinaire qu'on arrive à le déshumaniser. Parce que au sein de cette enseigne, on a pris conscience que la plupart des étudiants travaillaient très tard. Ils étaient obligés de sacrifier le temps de leur vie, se lever très tôt pour pouvoir étudier. Ils y travaillaient pour payer leur loyer, leurs études, ou remplir leur frigo. Donc, arrivé le matin, ils s'endormaient en classe. On s'est dit comment on peut améliorer ces conditions si ces étudiants sacrifient leur temps de vie, comment on peut les récompenser. On est parti de simples heures de nuit majorées. Et de là, on n'a pas arrêté jusqu'à qu'on a réussi à démasquer cette multinationale sur l'évasion fiscale. Et quand on a mis le doigt là où il fallait, et on a essayé de faire prendre conscience que cet argent qui est évadé, elle appauvrit nos hôpitaux, nos instituts, nos commissariats et nos quartiers. Alors que nous, en tant que travailleurs et travailleuses de ces quartiers, de ces cités, on travaille et on continue à nous pointer du doigt. Et on essaye de subir un système qui est injuste. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Et quand on rentre dans une école, avant de rentrer, on voit un slogan qui est « Liberté, égalité, fraternité ». C'est ce qu'on nous enseigne depuis notre jeune âge. Et aujourd'hui, on se dit il n'y a pas mieux que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Mais humainement, on a tendance à reproduire ce qu'on subit. Comment on peut arriver à changer tout ça? Comment on peut arriver à améliorer les choses? Et nos bonnes intentions, elles ne valeront que par nos actes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de ce lieu et tout le long de notre lutte.
Pour cette lutte, en termes d'organisation, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des syndicats ou est-ce que c'était juste un collectif?
Je voulais juste dire quand même, pour compléter ce qu'a dit Kamel et pour l'avoir un peu accompagné, je pense vraiment qu'on a voulu casser le McDo de Sainte-Marthe, parce que c'était un McDo qui avait, je le répète, un modèle économique qui était à l'inverse de celui du modèle économique dominant du McDo, mais surtout parce que Kamel a été un fer de lance de lutte pour les droits des salariés, qu'il a exporté au dehors de la franchise de l'époque pour aller aussi la partager avec d'autres McDo pour que les salariés du McDo aient des droits légitimes. C'est ça que n'a pas apprécié, me semble-t-il, Kamel. Il me semble que McDo n'a pas supporté à la fois ce McDo social, qui était un McDo social en fait. Kamel, il a été précurseur et d'un McDo qui aujourd'hui s'appelle l'Après-M, enfin ce McDo qui est devenu l'Après-M. Mais je pense que le fait que Kamel a été un peu là aussi l'incarnation de revendication des droits des salariés et qu'il est arrivé à les gagner au niveau de sa franchise et de l'avoir exporté vers d'autres enseignes de McDonald's, ça a été insupportable pour la multinationale.
Et Kamel, tu étais manager, c'est ça, au sein de McDo?
Moi, j'ai eu un parcours qui est extraordinaire parce que j'ai grandi à une époque où on pouvait encore un peu rêver. Alors que je vois cette jeunesse, elle n'arrive plus à rêver. On ne lui donne plus l'opportunité de rêver. Je rêvais, quand j'étais jeune, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir avoir une famille, de fonder une famille, avoir un toit. Je me suis dit, si j'arrive à ce niveau-là, je me dirais merci et j'ai réussi ma vie. Alors que ça ne doit pas être un rêve, ça doit être une normalité dans un pays de droit. On rêverait de monter sur la lune, on rêverait de voyager, de faire le tour du monde. Ce sont là les rêves. Moi, ce lieu m'a aidé à apprendre à travailler en équipe, m'a aidé à apprendre qu'est-ce que c'est une hiérarchie, à reprendre confiance en moi, à pouvoir évoluer. Et ce lieu a appris à d'autres personnes qui ont été plus ou moins cabossées par la vie, à reprendre confiance en eux, à fonder des familles, ou à d'autres personnes qui étaient incarcérées, de pouvoir sortir. Et on en a fait notre fierté. On en a fait notre fierté parce qu'on n'en avait rien à foutre de ce qui a pu causé ? Qu'est-ce qu'il a pu causer ? Qu'est-ce qu'elles ont pu causer, ces personnes-là, plutôt ? Ce qui était intéressant pour nous, c'est que comment on pourrait commencer une aventure et tracer un bout de chemin ensemble. Et la majorité des personnes qu'on a pu rencontrer et partager un chemin, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on est fiers et contents de les rencontrer, de les serrer dans nos bras, parce qu'ils ont fondé une famille, ils ont évolué au sein du restaurant. D'autres, ils sont revenus, parce qu'ils sont salariés aujourd'hui à l'après-m. Et il y en a que la restauration ne leur plaisait pas, et ben on leur faisait passer des formations dans le transport en commun, la plomberie, dans des métiers qu'ils souhaiteraient. C'est vraiment et réellement un ascenseur social. Et c'est pour ça qu'on a préservé l'outil de travail, on s'est battu corps et âme pour que cet outil-là ne puisse pas disparaître, même si on l'a conçu pour une rentabilité. Même si on essaye d'utiliser l'être, une fois qu'il n'est plus rentable, on le jette comme un chiffon grill. Pour nous, ben, nos vies, elles valent mieux que leur image.
Merci, Kamel, pour ce témoignage. On va se laisser une nouvelle respiration musicale avec un morceau de Quart de Séjour, Douce France.
Et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, de mon âge pour partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux. Oh, un voyage tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'affliction, gardez dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
séjour.
Les animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy avec vous sur les ondes de Radio Galère, toujours en compagnie de nos invités Kamel et Mohamed. Et je rappelle que le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'après-m. D'autres formes d'engagement sont-elles possibles ? Donc, on ne pouvait pas occulter cette historique avec le McDo, mais maintenant, on va passer à l'après-m, clairement et simplement. Donc, l'après-m, donc, quelles sont les réflexions et qui est à l'origine de cette idée ? Même si on ne va pas chercher la parentalité exactement du projet, mais qui est à l'initiative de ça ? Oui, Kamel, on l'imagine bien, mais...
C'est lui qui a l'initiative de ça. C'est une douleur, une souffrance qui perdure depuis une quarantaine d'années, qui a été transmise. L'après-m, c'est une histoire commune, c'est une histoire de partage, de résistance. Et on ne peut pas s'approprier ou symboliser un lieu à une seule personne, parce que ce lieu... a toujours fait du bien, même avant que je rentre dans ce restaurant, parce que une maman, quand elle est un peu stressée avec ses enfants, ben, elle descend, elle sort de son quartier, elle a un petit lieu de pouvoir s'épanouir, de que ses enfants puissent s'amuser, qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes. C'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu... Enfin, c'est une longue histoire et moi-même, je m'interdis de m'approprier cette histoire ou ce lieu parce que le bien, il se partage, il ne se conserve pas si on veut qu'il s'agrandisse.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas informés, donc le patron veut fermer le magasin McDo, ensuite vous opposez. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la démarche ? D'abord, vous vous occupez. Comment ça se passe concrètement ? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens entendent parler vaguement, mais pas dans le détail.
C'est rigolo parce que j'ai longuement cru dans ce genre de modèle ou de système qu'il y a un patron. Mais il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron parce que, pour moi, un président n'est pas un patron. Un vice-président n'est pas un patron. Il y a des responsables. Mais je me suis dit, une fois que je me suis penché à prendre mes droits, à comprendre que le droit pouvait remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau, et quand on parlait à un responsable, on lui parlait plus en tant que salarié, on lui parlait en tant que partenaire social. Là, c'est différent. Et quand on a... une notion et une conscience de ces outils, peu importe quelle couleur on porte, hein, qu'on soit FO, CGT ou d'autres, au Sud, pour moi, c'est que des outils mis à disposition pour défendre la dignité et l'honneur des travailleuses et travailleurs. Donc quand on a pris conscience de ça, on s'est dit, mince, mais en face de nous... le président, le vice-président ou le DRH a une fiche de paye entre ses mains. Ben, on va essayer de se donner les moyens d'être le patron de celui qui... Non. On va essayer de se donner le moyen d'être le patron de celui qui détient une fiche de paye entre ses mains. Non. De celui qui détient une... Enfin, je le disais, je me donnais le moyen d'être le patron de celui qui détenait une fiche de paye entre ses mains et qui se prenait pour un patron. Et j'ai essayé d'élargir mon... Mais...
Moi, je pense que vraiment, Kamel, avec l'histoire de l'après-m, c'est qu'il a voulu continuer l'orientation qu'il a donnée à ce McDo. C'est vraiment, je dis toujours, ce modèle social qui est extraordinaire, un concept nouveau... où effectivement, il n'y a pas de patron, où il a complètement renversé la table, hein, c'est ça. L'ordre tel qu'il était, il a dit « je ne suis pas d'accord avec, je renverse l'ordre établi, je renverse la table » et on réfléchit collectivement un modèle où tout le monde est à égalité. Je crois que c'est ça, non, Kamel ?
Exactement, parce que nous, quand on a vécu cette petite lutte, tout en prenant conscience que la plupart des responsables ne s'amusaient pas avec leur argent. Et quand on allait dans un combat juridique, c'était notre sueur qui est payée. qui payait leur procédure. Et ça, je me dis, oh, c'est douloureux, parce que l'argent qu'on fait, nous, en fait, elle sert contre nous. Elle ne sert pas pour nous. Et de là, ben, ces personnes-là ne s'amusent pas avec leur argent. À la fin du mois, sa prime est là et son salaire est là. Il a des objectifs à atteindre. Nous sommes que des chiffres. Après une longue lutte, il y a eu une fermeture. Une fermeture parce que avant la fermeture, il y a eu plusieurs étapes ou tentatives de pouvoir mettre ce restaurant en échec en vendant ce restaurant à un repreneur de paille qui était un homme de paille. Après, il y a eu un licenciement économique. Et ensuite, il y a eu la liquidation judiciaire qu'on n'a jamais acceptée. Nous, on a appris à aimer le menteur, mais par contre, on a appris à l'aimer, à l'accompagner jusqu'à la porte de son mensonge. Parce que pour nous, certes, le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers et finit par arriver un jour ou l'autre. Quand on les a mis face à leurs responsabilités, eh ben on a essayé de démontrer que c'était ridicule de pouvoir essayer de nous mettre en échec, de vouloir essayer de mettre ce restaurant et des familles en une procédure de liquidation judiciaire, de vider des frigos. Nous, on savait qu'on avait une belle petite fenêtre de tir. Quand on connaît nos droits, c'est d'appliquer l'article 1224-1, qui est l'article qui dit les salariés, peu importe quelle identité qui est liquidée, les salariés sont protégés et doivent soit être reclassés ou repris par le propriétaire, et que le propriétaire est McDonald's France, parce que c'est le fonds de commerce lui appartient et les murs lui appartiennent. Donc on s'est retrouvé dans une longue discussion et négociation, parce qu'on m'a remis un peu toute la faute sur moi et on a essayé de monter les salariés contre moi. Ça a été des moments très très douloureux, parce que quand on ne paye pas des salariés pendant 3 mois, et on essaye de leur dire c'est à cause de lui. Donc j'ai essayé, moi j'ai flanché, j'ai baissé les bras, je leur dis ok, on s'assoit et on négocie. On négocie pour l'intérêt et libérer les salariés. Mais dans ma tête, j'étais déterminé à ne rien lâcher. On a réussi à négocier une enveloppe de 1 600 000 euros pour une rupture conventionnelle. Pour une structure qui est en liquidation judiciaire, je ne sais pas d'où elle sort cet argent. Je ne sais pas d'où il est inventé, parce que quand on est en liquidation judiciaire, on n'a pas un franc.
Bien sûr.
Donc, content et fier que ces travailleuses et ces travailleurs qui ont travaillé depuis des années, il y en a qui travaillaient depuis 92, depuis l'ouverture du restaurant, qui ne sont pas partis une main devant, une main derrière. Donc, je leur ai donné un accord de principe, et une fois que j'ai vu que les salariés ont été libérés, là, j'ai déchiré ma rupture conventionnelle. Je leur ai dit, moi, je ne me suis jamais battu pour les personnes qui sont présentes, parce que je ne m'inquiète pas pour eux. Ils sont là, ils sont à côté de nous, ils sont vivants. Mais ce qui m'inquiète, c'est les personnes que j'aime plus que moi, que je ne connais pas, qui puissent avoir accès à cet ascenseur social. Donc, ils me prenaient pour un fou. Malheureusement, c'était le restaurant qu'il fallait abattre, c'était le restaurant qu'il fallait fermer. Il y a eu le confinement. C'était le seul restaurant qui rayonnait au monde 22 heures sur 24 et qui a changé son sens tout d'un coup, parce que moi j'ai travaillé pendant 23 ans dans ce restaurant et je n'ai jamais oublié que c'était ses habitantes et ses habitants qui m'ont aidé à gagner ma subsistance pendant des années. qui m'ont fait grandir. Quand notre cher président nous a dit que nous étions en guerre, waouh, nous, enfants des quartiers populaires, oui, nous savons faire la guerre contre la misère. Nous savons faire la guerre contre les injustices sociales. Parce que cette douleur-là, on ne la connaît pas, on la ressent. Et on la ressent chaque jour. Et on s'est dit, au lieu de sortir des hamburgers par le drive, on va essayer de s'auto-organiser avec pas que des travailleurs, il y avait des militants, des associations, des tout corps de métier qui s'est réuni au sein de cette place du village pour pouvoir essayer de créer de l'entraide. On parle de solidarité. Oui, c'est bon la solidarité, c'est bien la solidarité. Mais l'entraide est plus forte parce que même le plus souffrant peut mettre une pierre à l'édifice. Et c'est ce qui s'est passé au sein de ce lieu-là. On a réussi à découvrir une face cachée que ces habitantes et ces habitants n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais avaient peur de mourir de faim. Parce que la plupart des associations ou des grandes associations comme les Restos du Cœur ou d'autres ont fermé les portes. Les pauvres, parce que ne pouvaient pas faire face à une pandémie, parce que la plupart des personnes qui travaillent bénévoles chez eux, ce sont des personnes âgées, qu'il fallait qu'on protège. Nous, on a relevé les manches et on a essayé d'affronter, en risquant, oui, nos vies, la vie de nos familles, en sacrifiant nos familles, parce qu'on était cloisonnés, on rentrait dans... À la maison, on était enfermés dans une chambre. On ne savait pas si on allait à tout moment être contaminé ou qu'on pouvait transmettre un virus. Donc, une fois qu'il y a eu la fin du confinement, on s'est aperçu que la misère continuait et elle n'avait pas de vacances, ni de week-end, ni de jours fériés. On s'est dit, il va falloir qu'on arrête de la compter. Mais qu'on puisse la combattre. Et comment on peut la combattre ? On s'est battu et on a lutté pour préserver un outil de travail, pour garder cet ascenseur social au sein de nos quartiers, l'accès à l'emploi. Quand notre cher président nous dit « traversons et on trouve de l'emploi », nous, on a mal et on ressent une douleur parce que on essaye de créer de l'emploi. Et je ne sais pas combien de ministres est passé devant nous. Il ne s'est jamais arrêté de toquer à notre porte. On s'est dit, waouh, pourquoi on est mis de côté ? On a essayé de faire valoir nos droits par la justice médiatique. Et on les a remerciés infiniment parce que ce sont des personnes qui nous ont mis sous ce projecteur. Et cette justice médiatique, elle a fait bouger quelques lignes, qu'elles soient politiques ou juridiques. Et nous, on s'est dit, cet outil-là, il va falloir lui donner un sens. Il va falloir lui donner un sens et comment il peut servir au territoire. On a un outil qui est dégagé un chiffre d'affaires. Est-ce qu'on veut faire comme les autres ? Est-ce qu'on voudrait reproduire ce qu'on a déjà subi inconsciemment ? On s'est dit, mais si on est des personnes bien, le bien, il va falloir le partager. Il va falloir le partager avec les plus souffrants, les opprimés. Et donc, on a commencé à réfléchir sur de créer un fast social food au cœur du fast food. C'est le social, parce qu'on s'est battu pendant des années pour créer une charte sociale au sein de cette multinationale. Elle a signé une charte d'environnement, mais elle se dévoue de la charte sociale, alors que une charte sociale, c'est vital dans une entreprise. C'est ce qui fait, c'est le poumon de l'entreprise. Et tout le long du confinement, il y a une parole qui m'a heurté, qui me dérangeait et qu'on entendait souvent dans les gares, dans les aéroports, dans nos chaînes de télé. Maintenez vos distanciations sociales. c'est violent. C'est violent au sein des oreilles d'un enfant. Ça veut dire qu'il faut couper tout lien social. Alors que des lieux comme ça, on en voit rarement. Parce que, oui, là où on peut rencontrer peut-être au sein d'un lieu ou d'un restaurant des différentes classes sociales, c'est dans les kebabs. Nous, on a souhaité avoir un lieu qui nous ressemble et qui a un sens. Et on s'est dit, maintenant, si on voudrait travailler et remettre du travail demain, on voudrait savoir pour qui et pourquoi on travaille. Et quand notre clientèle elle va venir se restaurer, on souhaiterait qu'elle soit, elle sache où son argent elle ira. Pour nous, ce sont des actes qui ont un sens, d'une douleur et d'une souffrance qui est profonde, qui perdure. Et quand on dit nous sommes des quartiers prioritaires, non, je dirais nous ne sommes pas une zone à défendre, mais plutôt une zone à développer. Oui, nous sommes une ZAD. Et on est fiers de l'être parce que cette petite graine que nous, on a plantée, on a pris conscience il y a une dizaine d'années par nos camarades, nos frères, nos aînés. Ce sont les anciens Fralib, les 1336. 1336 jours de lutte pour préserver un outil de travail qui ne se délocalise pas. On a participé à cette lutte. Et on a pris conscience que demain, s'il y avait quelque chose à s'accrocher, c'est à cet outil-là.
Cette histoire est vraiment incroyable. Le mot social est important. Quand on se souvient de ce que vous dites là, c'est-à-dire que quand, au moment du confinement, vous avez fédéré des centaines de personnes, d'associations pour organiser les choses, et que maintenant, en plus, vous parlez des gens, des consommateurs, des gens qui vont venir sur place et qui vont jouer un rôle, c'est là que le mot social prend son sens.
Tout à fait, comme il disait Kamel, depuis qu'il y a eu cette liquidation judiciaire et qu'en début du mois d'avril 2020, c'est là où tout a commencé, la distribution de colis alimentaires, où toutes les associations sont venues à cet endroit stratégique. On a eu pas mal de dons. On remercie merci beaucoup aux donateurs, aux donatrices, aux personnes qui ont mis leur argent. Des dons qui ont été faits systématiquement par des réseaux où ils ont contribué énormément, qui nous a permis d'acheter des colis alimentaires. Et les déstockeurs aussi qui nous ont donné pas mal de stocks. Des restaurateurs aussi, au lieu de jeter cette marchandise qui aurait pu être destinée à la poubelle, donc on a pu le récupérer, le distribuer par la suite à la cité universitaire, aux personnes qui n'ont pas pu se déplacer, aux personnes qui étaient vraiment dans un chaos total. Et comme je le dis, je le répète, ils n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais ils avaient vraiment peur de mourir de faim, où les personnes ont perdu leur emploi, ou les personnes qui n'avaient pas de ressources financières, parce qu'il y en a qui travaillaient au black, n'ont pas eu de quoi donner à manger. Et on a dû affronter, se mettre face, se dire qu'est-ce qu'on fait, se retrousser les manches. Chacun a ramené ses compétences, son savoir-faire, son expérience dans tous les domaines socio-professionnels. On a eu des médecins, on a eu même des gens d'Allemagne qui sont venus, qui ont vu cette cause, qui voulaient participer. Il y a eu énormément de bénévoles, je ne vous les compte même plus. On les remercie longuement, fortement. Merci à eux. Merci aussi aux bénévoles qui contribuent à ce que l'APRIEM fonctionne, car on fonctionne beaucoup avec des bénévoles, car ils donnent de leur temps, de leur argent aussi. Ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que c'est un lieu stratégique où tout est parti de cet endroit et qui s'est réparti surtout à Marseille et ses environs. Et le deuxième confinement, on a accueilli à peu près entre 1500 et 1600 personnes, famille, demander des colis alimentaires. On n'a jamais arrêté, on n'a jamais baissé les bras par rapport à cette cause qui était pour nous très importante. Maintenant, il y a eu l'inauguration qui s'est faite et l'objectif commun, c'est de donner des colis alimentaires conséquents, d'avoir un panier où vous pouvez avoir des produits bio, des produits de qualité. Là, on est en train de travailler aussi en amont, parce que pourquoi ils n'ont pas la possibilité de manger correctement? On dit qu'il faut manger des fruits et légumes pour préserver sa santé. Ben, donnons à ces personnes-là, ils n'ont pas les moyens d'acheter ces produits de qualité, de les distribuer gratuitement, de faire ce qu'aussi des Uber solidaires, qui veut dire union de bienveillance, d'entraide pour des repas solidaires, qui nous permettra de livrer des personnes en situation d'handicap, des personnes âgées. Donc tous les lundis, on commence à partir de 7h du matin, et que les gens, comme il vient de dire Kamel, puissent voir où va leur argent. Vous n'allez pas venir manger un produit, un hamburger, vous allez pouvoir participer à cet élan d'entraide, à savoir que tous les bénéfices qu'engendrera l'APREM ira directement à la banque d'entraide, au projet de vie. Donc juste derrière, vous avez des conteneurs, c'est là où on stocke la marchandise, et ce projet de vie qui veut dire village d'initiative et d'entraide. Donc voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à tout ce que nous faisons.
Merci beaucoup Mohamed. Mais du coup, on va faire une petite respiration musicale avec le morceau Bella Ciao.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Mamega, et vient de nous rejoindre Fatih Boiroy. C'est très bien. Est-ce que j'ai prononcé correctement ton nom? Parce que j'ai l'impression d'avoir bugué un peu. Non, ça va. Et justement, on avait l'intention de parler de la SCI. Alors la SCI, Société Citoyenne Immobilière, la part du peuple. Alors qu'est-ce que c'est?
Alors juste pour revenir à l'histoire. Est très simple. C'est qu'au tout début, après le confinement, après tout ce qui s'est passé, toutes les mobilisations, on s'est dit que ceux qui étaient là d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui étaient là et qui ne sont plus encore aujourd'hui, mais c'est une aventure dans laquelle il y a eu plein de monde qui sont passés. Et juste après le confinement, on s'est dit, mais ce resto, il va falloir qu'il redevienne resto. Perdre 77 emplois, c'est impossible. Et donc, on a créé une association qui s'appelait Association de Préfiguration pour un restaurant économique et social. Pour tout simplement, en se disant, on va préparer les choses. En essayant de préparer, on a commencé à écrire des projets, on s'est réunis, on a expliqué, on a fait des assemblées générales, on se réunissait beaucoup, 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 ça n'a pas l'air comme ça. Et en bout de course, quand on est arrivé à trouver la solution est pour nous semblait simple, c'est qu'il fallait acheter le lieu, mais pas acheter n'importe comment, acheter de manière très collective. Il fallait que le maximum de gens s'y mettent, et on a décidé de se dire, il faut appeler au peuple, puisque McDo va nous mettre dehors, il faut acheter. On se dit, on va appeler un truc qui s'appelle la part du peuple, en disant que chacun d'entre nous, si on pouvait être 50 000 qui amènent 25 euros, on achète tranquillement le truc, puisque ça fait 1 250 000. D'autant plus qu'on savait qu'ils étaient en train de négocier à 650 000 euros. On s'est dit, en plus, on aura de la marge. Donc, on se dit, on va faire une grande fête le 25 mai 2021. Cette grande fête pour appeler le peuple à participer à cette aventure. Et c'est pour ça qu'on s'appelle l'association La Part du Peuple, Société Citoyenne Immobilière et non pas Société Civile. Citoyenne parce que notre intention n'est pas de se créer une vraie société civile, c'est-à-dire que ce n'est pas de spéculer. Alors on a commencé cette histoire, on a commencé à faire adhérer les gens avec une carte qui était un peu une carte d'adhésion qui ressemblait plus à un emprunt russe qu'à une carte d'adhésion d'association. Je vous promets que si vous la voyez, vous dites « mais non, c'est pas... » Et d'ailleurs, elle est rédigée comme si c'était une vraie part d'action. On avait pris des sum-up, c'est-à-dire des terminaux pour...
terminaux de paiement, oui.
Paiement. Eh bien, terminaux de paiement au bout de quelques... même pas une heure. Ils ont explosé, puisqu'il y avait...
beaucoup de monde.
Il y avait trop de transactions, ce qui a fait en sorte que le gardien de la bourse nous fasse bloquer notre truc. Et on avait un site sur lequel les gens pouvaient prendre, mais il marchait tellement mal parce qu'on est des amateurs, mais c'est bien d'être des amateurs. Donc au final, au bout d'une semaine, on avait 3000 personnes qui avaient mis cet argent, quoi, de l'argent, 25 euros. Sauf que dans la semaine, on a eu aussi l'appel du maire qui nous a dit « j'achète ». Il a fait savoir le 2 juin. Et dès le 2 juin, les gens nous ont dit hey, « remboursez, remboursez hein ». Oui, bien sûr. Ils n'avaient pas compris deux choses. C'est que, un, c'était une adhésion à une association, même si elle était unique. C'est-à-dire que les gens qui ont adhéré à vie, sauf si on les vire. Mais il n'y a pas eu de gens qui ont été virés, puisque personne n'a contesté quoi que ce soit. Je plaisantais. Donc l'association, elle s'est transformée assez rapidement en... lieu de rediscussion, de renégociation du projet. Donc on s'est mis après à dire on crée un projet maintenant plus solide puisque le maire nous avait laissé entendre que les locaux seraient à nous locataires. Et à ce moment-là, on a continué à écrire le projet jusqu'à se dire qu'il va falloir deux parties du projet parce que pour nous, ce n'est pas un projet de commerce qu'on crée, d'un restaurant, mais c'est un projet de territoire. C'est-à-dire que là-bas, pour nous, c'est aussi une place de village. Quand ce lieu a été créé en 92, la presse marseillaise titrait le centre-ville des quartiers nord. Et pendant très longtemps, ce restaurant qui avait embauché les jeunes du quartier, parce que le directeur actuel, c'était un jeune de ce quartier à l'origine, il y a 20, 25 ans. Son frère pareil et d'autres gens. Donc c'était vraiment la réponse qui avait été apportée. Et d'ailleurs, ce qu'on dit encore aujourd'hui, c'est que les gens ne voulaient pas voir partir McDo. Ils ont surtout eu la rage qu'il s'en aille parce qu'il a pris 77 emplois et qu'il les a privés de leur place du village. Et donc, on a dit qu'on allait reconstruire ça. Mais à côté, il fallait qu'on garde ce qu'avaient fait tous les copains depuis quelques temps, notamment autour de l'entraide, avec de la distribution alimentaire. Et là, la seule solution pour nous, c'était de créer une nouvelle structure qu'on allait constituer autour d'une structure plutôt économique pour gérer le restaurant. Et ça, on s'est dit qu'on allait créer une coopérative. Mais pas une vraie coopérative, plutôt une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire dans laquelle on retrouve, bien sûr, les salariés comme dans une coopérative ouvrière, mais dans laquelle les militants, les adhérents, les clients même, les fournisseurs partenaires font partie, deviennent sociétaires. Et donc aujourd'hui, il y a 5 collèges de sociétaires. Il y en a un où il n'y a personne, c'est les collectivités locales, malgré tous les appels de pied, mais ils veulent pourquoi. Bon, ils ont encore peur de nous, pourtant on est bien gentils. Une note sur les fournisseurs. On est par exemple, on a des fournisseurs qui nous ont beaucoup aidés pendant le confinement et qui deviennent nos vrais fournisseurs aujourd'hui. Ensuite, nous avons les bénévoles et les associations qui ont participé à l'aventure. Puis nous avons les usagers, non, les salariés, pardon, parce que cela c'est obligatoire, c'est une coopérative, Et le dernier, ce sont les fondateurs. Les fondateurs, ce ne sont que les anciens salariés qui ont maintenu l'outil de travail et qui ont la vraie légitimité pour la suite. Donc voilà comment est constituée cette société. C'est une société, en réalité, une SAS, Société à Action Simplifiée. Vous trouverez ça très simplement. Pourquoi ça? C'est simplement qu'on voulait avoir la possibilité de mettre dans les statuts ce qu'on veut. Et pour mettre ce qu'on veut, il faut une SAS. On peut même partir avec 1 euro de capital et on peut mettre pratiquement les statuts qu'on veut, ce qui n'est pas le cas des SA, etc. Et dedans, on a mis des choses qui sont comme par exemple que tous les bénéfices, tous les excédents, sont obligatoirement reversés pour l'entraide et en particulier pour la distribution alimentaire. C'est-à-dire que il n'y a aucun excédent qui pourrait être reversé, par exemple, pour donner une super prime. Ou pour, donc, on est aujourd'hui, avec un certain nombre, essayé d'être les gardiens de ce projet-là sur le plan politique et social. Et ça nous fait plaisir qu'il puisse être imité ailleurs, parce que vraiment, les quartiers populaires ont besoin de ce genre d'espoir.
Merci Fatih. Mais est-ce qu'il est encore possible d'acheter une action, entre guillemets, une part?
Alors, il y a deux choses. Il y a les parts pour l'association.
Oui.
Et il y a des actions en tant que telles qui sont des souscriptions en actions qui ne rapportent rien,
oui,
mais qui font qu'on participe à la gouvernance et donc qu'on est invité aux assemblées générales pour les décisions. Ça, c'est pour la coopérative. Donc, l'une s'appelle APREM. Et l'autre s'appelle la part du peuple. La part du peuple, c'est une adhésion maintenant beaucoup plus pour le projet Avenir, qui est que... Il vous a parlé du projet Avenir, mes collègues ?
Pas encore, ça va arriver.
Je vais parler trop longtemps. Le projet, pour la deuxième partie du projet, qui est que la consolidation d'abord de tout notre système de distribution, vous avez dû voir des containers orange pour ceux qui sont passés, un container frigorifique, une installation avec un toit un peu particulier. C'est carrément une halle qu'on a fait avec nos propres moyens pour l'instant, quoi, avec les 25 euros que chacun nous a donnés. Mais surtout, c'est notre projet de vie, parce qu'on aime beaucoup les acronymes, vous avez dû le remarquer.
On
vie,
a constaté.
Voulant dire village des initiatives d'entraide. Et donc, ce projet de vie, c'est la partie que va maintenant travailler la part du peuple. Et derrière, dans, je pense au mois de février, normalement, vous devrez avoir un autre bungalow qui sera probablement orange. Je ne sais pas pourquoi, mais il sera orange. Et il contiendra une conserverie populaire. Qu'est-ce à coup une conserverie populaire ?
Exactement.
Une conserverie populaire, c'est tout simplement... qu'on va demander aux gens qui viennent chercher des colis le lundi matin aujourd'hui, mais qu'on va essayer de répartir parce qu'il y a trop de monde le lundi matin, pour leur proposer de venir trier avec nous les légumes et fruits qu'on nous donne, parce qu'on nous les donne, donc il y a bien sûr des fruits trop mûrs, voilà, des trucs gâtés, etc. Ces éléments-là seront transformés, triés, il y a un premier tri avec nous. Une partie va pour la distribution. Ce qui est trop mûr, trop touché, va aller à la conserverie. La conserverie, ils vont en faire des confitures, des soupes, des jus, et aussi des pickles, parce qu'on peut conserver avec le sucre et le vinaigre. On peut conserver aussi en séchant, puisqu'on aura des séchoirs.
Ouais, ou de la saumure, ou quelque
chose
comme ça.
Voilà, la saumure, on ne sait pas encore faire, mais on est en train d'apprendre.
C'est relativement facile.
Voilà, donc ça, et c'est les personnes qui viennent chercher les colis qui vont le faire. On va leur demander de venir avec des bocaux en verre et des bouteilles en verre.
Pour pouvoir
recycler, bien sûr. Ouais. Mais ils partiront, une fois qu'ils nous ont aidés, ils partiront avec la moitié de la production. Et l'autre moitié sera mise dans les colis pour les personnes qui ne peuvent pas venir, qu'on livre à domicile, que sont les personnes du quatrième âge et les personnes handicapées, puisqu'on a ce qu'on appelle le Uber solidaire. On vous en a parlé déjà ?
On nous en a parlé.
Voilà, oui. Union bienveillante d'entraide pour les repas solidaires. Et donc, y a ça. Puis, derrière, encore au fond, nous avons l'intention de recycler, puisqu'il se trouve que nous avons un vrai souci, c'est que la métropole nous demande de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour tout ce qu'on a à jeter comme... cagettes, cartons, etc. Donc derrière, nous allons avoir un méthaniseur, c'est-à-dire, comme dit Kamel, une vache. C'est-à-dire que d'un côté, on va prendre tous les restes organiques du restaurant. On va prendre ce qui reste aussi du tri, ce qui reste de la conserverie. Mmh. Et tout ça, on va le mettre. Pardon. Et tout ça, on va le mettre dans une poche, dans un truc qui va faire en sorte qu'on va fabriquer un vrai bouillon de culture là-dedans, qui va donner du gaz qui va sortir par le haut, qui sera du méthane qu'on devra filtrer. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mmh. Et de l'autre côté, tout ce qui est encore déchet sera transformé en engrais.
Ouais,
voilà. Donc on va devoir faire de la chimie, on va faire des formations, c'est prévu, en chimie, mais c'est parce que c'est très sérieux. Et le gaz, comme le méthane est un gaz qui, contrairement à ce qu'on croit, ne peut pas être utilisé aussi facilement, tout simplement parce qu'il prend un volume énorme. Et quand on nous livre en France du gaz naturel, du méthane, en réalité, on doit le comprimer et le liquéfier. Pour le liquéfier, il faut une énergie incroyable, puisqu'il faut descendre l'azote à moins 160. Je ne rentre pas dans les détails là non plus. Donc c'est un scandale, l'histoire du méthane qu'on nous livre. Par contre, là, notre idée, c'est au fur et à mesure, le méthane est cogénéré, c'est-à-dire qu'il est transformé en électricité. Et cette électricité nous sert à
alimenter le restaurant.
Non, pas le restaurant, parce qu'on n'en aura pas encore assez. Le frigo et le village seulement. Bon, après, on verra, parce qu'après, il y a déjà des restaurateurs qui nous proposent de nous donner de l'argent pour récupérer leur... Et on se dit peut-être que là, nous avons la possibilité d'aller plus loin, puisque nous avons aussi, on vous a parlé des emplois d'insertion d'un côté, sur le restaurant, puisque 23 personnes ont été embauchées en emploi d'insertion, avec un salaire plus qu'honorable, puisqu'ils sont payés 1795 euros bruts, c'est-à-dire pas loin de 1450 euros nets. C'est quand même beaucoup plus qu'ailleurs pour le même boulot. Donc on a de l'autre côté des chantiers d'insertion pour faire tout ça. Voilà, je vais arrêter parce que sinon je peux...
Merci beaucoup Fatih, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole.
Tout à l'heure vous avez parlé d'actions du point de vue économique. Maintenant, si on parle un peu des actions d'éclat que vous avez faites, parce qu'apparemment c'est incroyable ce qu'on voit dans la place magasin. Ben oui, apparemment il y a eu un feu d'artifice, grand chef.
Si vous vous permettez, on se fait sa petite respiration musicale et on vient sur l'inauguration, Paseda et compagnie. Alors on se laisse avec une nouvelle respiration musicale, Claudio Capello, Un homme debout.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endorme,
la 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 la
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Un site de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement. Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est doux. Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de jour. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte.
Chers auditeurs, nous sommes toujours en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy avec Fatih, Kamel et Mohamed. Et nous allons justement rentrer, pas dans le vif du sujet parce qu'on y est depuis un moment, mais parler de l'inauguration qui a eu lieu donc samedi. Et peut-être nous parler de vos collaborations avec le chef Paceda notamment, et peut-être voir un petit peu d'autres choses en fonction de ce que vous nous direz. Ouais, le menu proposé, est-ce qu'il y a d'autres collaborations prévues avec d'autres chefs et ce genre de choses-là, et vos perspectives naturellement.
D'ailleurs, on le remercie fort. C'est quand on l'a rencontré par le biais d'une structure d'un restaurant qui a ouvert, Restaurant République, qui est l'association Lily. Et lors de nos échanges, il a senti une vibration qui était particulière. Et il n'a pas hésité une seule fois et il nous a dit « Je viens de ces quartiers, je ne peux pas oublier d'où je viens et comment je peux vous aider, je suis là. » Nous, on n'a pas cru, on s'est dit « Waouh, qu'est-ce que c'est un chef étoilé aussi gentil alors que... » Il a une réputation de dur, d'un homme ferme. Et ben c'est la petite étoile qui a essayé de faire briller un peu plus ce lieu. Parce que ce lieu brillait déjà de soi-même à travers le monde. Mais cette petite étoile, elle nous a montré que de manger gastronomique par un très grand chef avec des prix accessibles, c'était possible. C'était possible de pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir bien manger et par les mains d'un chef étoilé. Ça, on s'est dit waouh. Mais nous avons toujours un rêve, comme nous sommes des extraterrestres. Et de sortir, de appeler ou parler à tous ces extraterrestres qui se trouvent dans nos quartiers, de créer leur propre ovni, avec leur propre histoire, parce que l'histoire de chaque quartier, elle est si importante, parce qu'elle devrait être transmise à une future génération, pour qu'ils ne oublient pas d'où on vient, pour qu'ils n'oublient pas qu'il y a des personnes qui ont sacrifié leur temps, leur énergie, pour que les choses elles puissent, pour que les choses elles puissent changer. Et quand il y a eu cette inauguration, pour nous, ça a été une victoire, ça a été un rêve qui s'est réalisé. Mais pour nous, je dirais une victoire. Je vais essayer de parler pour moi. Personnellement, je n'ai rien à foutre de la victoire. Ce qui était important pour nous, c'était de ne pas perdre. Et on ne souhaitait pas perdre. Et on n'aime pas perdre.
Merci Kamel, merci Kamel. Alors, il y a une question qui émane... du territoire, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'il y aura un drive sur ce fast-food solidaire, social solidaire ?
Si sur ce drive.
Est-ce qu'il y aura un drive sur, à l'après-m? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui veulent commander. Il y a déjà un drive.
Il y a un drive. Il y a un drive, mais il n'y aura pas Uber Eats.
Oui, d'accord, ok, ça va.
Ça, c'est certain. Mais il y aura un Uber solidaire et on est en train de développer une application. Comment on peut, nous, au lieu de donner et de continuer à graisser cette multinationale qui appauvrit et qui exploite
les livreurs
et les livreuses, ben, on va essayer de leur donner les moyens de pouvoir de créer leur propre statut et de pouvoir livrer et de les payer dignement.
Merci. Ouais, tu voulais dire un mot, non ?
Oui, peut-être sur l'inauguration. Il paraît que c'est passé des choses spéciales.
L'inauguration était extraordinaire. Je pense que vous avez peut-être pu le voir pour certaines à travers les différents médias et canaux nationaux. Donc, on l'a vraiment profité avec les bénévoles, les anciens salariés, des passants, des habitants, des habitantes. Des bénéficiaires aussi, c'était explosif. Donc on remercie fortement le groupe F d'avoir fait le déplacement. C'était une surprise où tout le monde en a pris plein les yeux, où il y avait pas mal de personnes souriantes, gaies, enthousiastes. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires. Donc il faisait froid, certes, mais ils ont tenu le coup. Donc 17h, là où tout le monde était présent, 18h, feu d'artifice. Et 19h, les gens pouvaient rentrer à l'intérieur et consommer.
Il faudrait préciser, c'est le groupe F.
Alors, c'est un groupe d'artificiers qui sont notamment connus à l'international, à Dubaï notamment. C'est eux qui ont fait le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, ce sont des professionnels. Donc, quand ils ont su qu'on allait ouvrir, ils se sont dit eh ben, je veux joindre votre équipe. Et ils sont venus bénévolement nous faire le show.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager. Ah, Mohamed, Kamel, pardon.
Et ne jamais oublier que. Ne pas oublier surtout ce cadeau que les artistes nous ont fait, cette œuvre d'art. L'œuvre d'art qui est l'après-m, qui est notre histoire. 30 ans d'histoire. Donc, je vais laisser plutôt Fatih dire deux mots là-dessus.
Oui. Sur cette œuvre d'art, c'est-à-dire notre œuvre qui est posée maintenant sur notre toit, c'est une œuvre d'art, c'est pas une enseigne. Parce qu'elle est la représentation de toute l'histoire de ce quartier avec ce petit bout de territoire. Et pour nous, il n'était pas question de changer d'histoire. Et donc, il fallait bien remettre ce qu'on avait mis il y a quelques mois. Et donc, on a réinstallé cette œuvre d'art qui a été faite avec des artistes et avec des gens du quartier. Et pour nous, c'est une œuvre artistique collective. Comme on dit, d'art contemporain, ça veut dire qu'elle traduit quelque chose. Et pour nous, c'est extrêmement important de dire à tout le monde, ce n'est pas une enseigne McDo, c'est clair. C'est une enseigne qui représente une œuvre d'art composée par la lutte des habitants et des salariés. Et je voudrais dire quand même que... On n'en a pas parlé, personne ne nous interroge sur les menus. Il y a deux menus. Un menu classique.
Et un menu vegan.
Et un menu, non pas du tout, et un menu gastronomique que Kamel a présenté.
Gastronomique.
C'est-à-dire de la gastronomie rapide. Mais juste un mot sur la partie... on a sondé les gens qui venaient et ils voulaient du McDo. Et donc on a fait en sorte de répondre à leurs besoins. Et on voudrait voir évoluer la manière de manger, de sortir de la malbouffe pour manger autre chose de la bonne bouffe. C'est pour ça que nous avons du gastronomique et de la malbouffe à côté. On répond aux besoins de la population de nos quartiers. On aurait fait un menu vegan, on n'aurait pas eu la population du quartier. Le fait de faire un mouse costaud qui ressemble à un big, c'est parce que c'est un clin d'œil à la population du quartier qui avait cette habitude. Mais il faut qu'on apprenne à changer nos habitudes parce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Je rappelle que la fameuse soucoupe OVNI coûte le menu 1 € de plus. On va modifier chaque chose, sachant que tu l'as dit que le pain et la viande venaient du quartier pour une partie, pour celle de la gastronomie, et le reste vient des circuits traditionnels comme les autres. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment développer cette partie et on invite tous les consommateurs, tous ceux qui veulent aller manger chez nous, de demander plutôt et de participer au fait qu'on change de type de repas.
Merci. Et pour venir le mot de la fin, à ce que tu dis, on invite le public, les gens à venir nous voir. Nous sommes situés au 214 chemin de Sainte-Marthe, 13014 Marseille. Donc c'est ouvert tous les jours à partir de 11h jusqu'à 22h sur place, à 23h en drive. Donc, et à minuit, bien évidemment, il n'y a plus rien. Donc merci. Voilà.
Merci. Et si quelqu'un veut adhérer ou vous soutenir, on peut vous contacter où exactement ? En se rendant directement à l'après-midi ?
Donc vous avez les sites, les réseaux, tout est indiqué sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous avez aussi une page, tous les réseaux sociaux. Donc vous pouvez taper...
Pour soutenir, c'est tout simplement aprem.org. Et là, vous avez la possibilité de prendre vos adhésions et de faire des dons, puisque les dons continuent pour la distribution alimentaire.
Merci à tous les trois pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos témoignages. Kamel, je vois que tu veux nous dire quelques mots encore.
On remercie toutes les personnes qui ont mis leur sueur à ce projet et ce lieu-là ne les oubliera jamais.
Merci beaucoup en tout cas à vous. L'émission est terminée pour aujourd'hui, mais je reste là pour les communiqués de presse. C'est pour vous que je parlerai, tu vois. Oui. Donc. Non, mais t'as... Bref. Donc, la collaboration entre la mairie du 13-14 et l'espace culturel et le comité Maméga se poursuit avec une possibilité pour ceux qui n'ont pas pu assister à la projection du documentaire Regards croisés sur Françoise Hégal, l'écrivaine, produit par Acte et le comité Maméga. Ils pourront bénéficier de sessions de rattrapage entre le 12 et le 15 décembre à l'espace culturel Busserine entre 9h et midi et 14h et 16h. Demain à 17h30. Il y aura la dictée pour tous organisée par l'association Beaumaillé et cela se déroulera, parce que ça c'est la précipitation, si dit me met le stress, cela se déroulera au complexe sportif de la Busserine situé rue Françoise Hégal. Un goûter sera offert à l'ensemble des participants, de nombreux lots seront à gagner et de nombreuses surprises sont également prévues. Les échos du Grand Saint-Barthélemy nous touchent à leur fin. Cette émission est soutenue par la politique de la ville, et la partie État, ANCT et les services politiques de la ville de la métropole. Donc, je vous remercie encore une nouvelle fois d'être à mes côtés aujourd'hui. Je remercie également notre ami Sidi Diallo, technicien de Radio Galère, qui nous a contraints à réaliser cette émission aujourd'hui parce qu'il part en vacances, le chanceux. Bonnes vacances. Sans oublier Farid, Karima et Saïd, qui sont toujours à mes côtés et qui me supportent tous les mois. Nous nous retrouverons sur les ondes de Radio Galère à la rentrée pour une nouvelle émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Nous vous souhaitons par avance une bonne fin d'année, bon boudin, un autre soleil, à bientôt. Et on se laisse avec une dernière respiration musicale qui est le morceau de Natacha Atlas, Mon ami la rose. Je l'ai déjà dit.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Voilà le Dieu qui m'a fait.